Coulisses politiques avec Henri Vernet.
Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Vivons-nous le début de la fin d'une Ve République fatiguée? Bienvenue dans Coulisses politiques. Bonjour, je suis François-Xavier de Calonne. Vous êtes bien sur Radio Orient. Coulisses politiques avec Henri Vernet, une émission disponible en podcast, notamment sur votre site internet radioorient.com. Bonjour Henri Vernet.
Bonjour François de Calonne, bonjour à tous.
Vous êtes rédacteur en chef adjoint du service politique du Parisien aujourd'hui en France. Votre dernier ouvrage, Big Machiavel, aux éditions Buchet-Chastel. Nous allons nous intéresser avec vous à la situation politique aujourd'hui en France, à la défiance des citoyens vis-à-vis de la classe politique, aux remèdes pour y faire face. Et puis, une crise peut-elle en cacher ou en entraîner une autre? La France est-elle sur le point de vivre une grave crise sociale et économique? Dans Coulisses politiques, nous évoquerons aussi les leviers que la Constitution donne au président de la République pour faire face à ces lourdes difficultés. La deuxième partie de cette émission est exclusivement disponible en ligne. Dans Coulisses politiques, revenons à l'origine de cette crise. Henri Vernet, cette crise est-elle le fruit de l'absence de véritable campagne du président de la République, Emmanuel Macron, avant les élections législatives de 2022, ou alors de la dissolution décriée de juillet 2024, une assemblée divisée en trois blocs sans majorité?
Les deux, mon capitaine, hein, comme on répond parfois, c'est oui, en effet, le résultat d'abord de ces scrutins législatifs décevants qui a suivi la présidentielle de 2022. En effet, il n'y avait pas eu de campagne. En quelque sorte, Emmanuel Macron avait alors surfé sur le contexte international qui était extrêmement tendu puisque la guerre en Ukraine avait commencé. Il avait aussi profité de la faiblesse relative de ses adversaires. On se souvient que des poids lourds, enfin des partis traditionnellement anciens poids lourds de la scène politique française se sont littéralement effondrés en 2022. Je pense bien sûr au PS avec la candidate Madame Hidalgo qui a fait moins de 2% du jamais vu. Et puis côté LR, côté républicain, Valérie Pécresse qui elle n'a pas atteint les 5%. Là encore vraiment, c'est une situation extrêmement dure d'adversaires de ces grands partis qui avaient déjà été très fortement bousculés, écartés en 2017. Mais là, véritablement, en 2022, qui avait beaucoup souffert et donc dans la foulée et en revanche évidemment encore une fois une affirmation des extrêmes puisque on a un deuxième tour alors que n'a pas rejoint Jean-Luc Mélenchon l'insoumis mais quand même il était assez bien placé à nouveau dans cette présidentielle et puis pour la deuxième fois consécutive Marine Le Pen donc le RN au second tour, ce qui fait que eh bien porté par cela le président qui est réélu donc pour son deuxième mandat, eh ben il fait pas vraiment de campagne en effet pour les législatives qui sont censées apporter dans notre système une majorité au nouveau président pour gouverner. Le fait qu'il n'y ait pas eu de campagne, qu'est-ce que ça implique? Ben, ça implique que les Français sont rentrés dans un nouveau mandat, dans une nouvelle configuration politique, mais sans connaître le projet. Avec les législatives de 2022, c'est 26%, hein, et puis, évidemment, ensuite, il y a cette dissolution qui survient, et là, c'est encore plus ingouvernable, parce que il n'y a vraiment pas de majorité.
Un excès de confiance en 2022, en 2024, ce n'est pas forcément un coup de tête, hein, comme le souligne votre collègue du Parisien aujourd'hui en France, Olivier Beaumont, dans son ouvrage « La tragédie de l'Élysée » chez Robert Laffont, cette dissolution, c'est une décision qui a été longuement mûrie avec notamment les conseillers du président de la République.
Évidemment, la dissolution et la manière dont il l'a pratiquée, il y a toujours un côté apprenti sorcier. Chez Emmanuel Macron et quelques-uns de ses conseillers, de ministres aussi, qui œuvraient à cette solution qu'ils trouvaient plutôt bonne pour relancer un peu la machine.
Justement, on va l'écouter. Emmanuel Macron, au soir des résultats des élections européennes, le président de la République, qui a la surprise générale, annonce la dissolution de l'Assemblée nationale.
La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. Et je le dis alors même que nous venons de célébrer avec le monde entier le débarquement en Normandie, et alors même que dans quelques semaines, nous aurons à accueillir le monde pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Oui, l'extrême droite est à la fois l'appauvrissement des Français et le déclassement de notre pays. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était.
La montée des nationalistes est un danger pour notre nation, dit le président de la République, qui, en même temps, prend le risque de les faire accéder au pouvoir avec cette dissolution, Henri Vernet.
Oui, bien sûr, c'est d'ailleurs ce qui lui a été beaucoup reproché, parce que là, il parle au soir d'élections européennes qui ont été véritablement un triomphe, il faut bien le dire, hein, pour l'extrême droite, pour le parti RN mené aux européennes par Jordan Bardella, qui est le chef de file des députés européens et puis qui deviendra le président du parti. On ne voit pas pourquoi la vérité sortie des urnes le 9 juin serait différente quelques semaines plus tard à l'occasion de législatives. Donc c'est là, en effet, qu'il y a un jeu dangereux qui est joué par le président. Alors pourquoi fait-il cela ? Bon, bah, il fait cela d'abord, hein, on l'a dit, parce que il veut quand même retrouver le contrôle de la situation. C'est vrai que les 2 ans qui viennent de se passer, il a dû user 2 premiers ministres, gouverner à coup de 49-3. Bref, c'est vraiment pas une situation confortable. Et puis surtout, il y a cette certitude que de toute façon, dissolution ou pas dissolution, une fois l'été passé, une fois les Jeux Olympiques passés, arriverait l'automne avec la période du vote de budget. Forcément, un budget assez dur pour la France parce que les finances publiques, leur état catastrophique, eh bien, l'impose. Et que donc, de toute façon, la chute du gouvernement, en l'occurrence à ce moment-là, c'est le gouvernement de Gabriel Attal, eh ben, aurait été renversé. Donc autant l'anticiper, autant garder le contrôle des choses. Parce que Macron, c'est sa marque de fabrique, il veut absolument tout maîtriser. Hein. Oui, mais sauf que son calcul, il ne va pas être bon. Son calcul, c'est quoi ? C'est que, en décidant cette dissolution, qui malgré tout a été quand même préparé en catimini, pourrait-on dire. Hein. Bien préparé, certes, parce qu'il y avait tout un plan.
Mais vraiment au sein de l'Élysée.
Au sein de l'Élysée.
Alors, sans mot à dire.
Il y avait un ou deux ministres qui étaient dans la confidence, mais c'est vrai que sinon, c'est lui et sa garde rapprochée, ses proches conseillers.
Bruno Roger Petit, par exemple.
Par exemple. Ben, vous savez, c'est ce que Bruno Le Maire, plus tard, appellera publiquement les cloportes. Hein. Il sera extrêmement sévère avec eux. Il n'y a que eux qui sont au courant. Et donc, le plan des stratèges, entre guillemets, de l'Élysée, c'était que, pris de court, les forces adverses n'auraient pas le temps de s'organiser. L'opération était quand même préparée, il y avait même un nom de code, hein. C'était le nom de code, c'était Clisthène, hein. C'est le nom d'un philosophe grec, donc avec cette idée de bien mettre en scène la parole présidentielle au soir donc d'élections qui lui sont néfastes, hein, parce que Renaissance, hein, le bloc central est balayé, subit un revers humiliant. Mais donc une parole présidentielle rapide, une décision très nette, donc cette dissolution, dans la foulée, le discours, et puis même une mise en scène photographique. Vous savez, il y avait la photographe de l'Élysée, Sois-Gil Messonnière, qui a pris des clichés très étonnants des ministres qui sont convoqués comme ça quelques heures avant l'annonce, qui sont convoqués à l'Élysée. Donc ce reportage, il est diffusé sur les réseaux sociaux.
Et là, on
dans
voit
la soirée
les têtes
même,
d'enterrement, notamment
sûr,
celle de Gabriel Attal.
Absolument, Gabriel Attal qui a été informé par téléphone en fin d'après-midi, c'est-à-dire 2-3 heures avant.
Et après Gabriel Attal, il y a eu Michel Barnier, puis François Bayrou, avant la nomination de Sébastien Lecornu. Comment François Bayrou s'est-il imposé à Matignon, vous qui suivez de très près les coulisses politiques?
Bon, il s'est roulé par terre, hein, pour le dire vulgairement, enfin pour employer une image, parce qu'il le voulait vraiment, ce poste. Il estimait que c'était son tour. Et puis il faut juste faire un tout petit point d'histoire, rappeler que sans le ralliement de François Bayrou au candidat Emmanuel Macron en 2017, il n'aurait pas été élu à l'Élysée. À ce moment-là, il estime que c'est vraiment son tour. Et puisqu'on parle des coulisses, il va très fort, hein, dans la menace assez directe. On peut le dire, c'est-à-dire notamment de retirer, s'il n'est pas nommé Premier ministre, dit-il, tout simplement, il retirera le soutien du bloc MoDem. Donc,
d'une large partie, du socle commun.
Donc, il va jusque-là. Et puis, c'est vrai qu'il fait pression, il a une relation étroite, hein, avec Macron. Alors, c'est à la fois le sage, un petit peu le père, qui donne ses conseils, qui parfois peut agacer un peu le président, parce que la figure tutélaire qui veut tout le temps être dans la pièce, c'est parfois encombrant. Mais il a quand même cette espèce de magistère et d'influence sur lui. Et donc, il finit par convaincre Macron. Et il le convainc d'ailleurs au détriment de Sébastien Lecornu, qui en réalité est fléché dès ce moment-là par Emmanuel Macron pour remplacer Michel Barnier.
Emmanuel Macron, qui dit non à François Bayrou pour Matignon, et François Bayrou qui, quelques minutes plus tard, reçoit finalement un appel du président de la République pour lui dire que c'est oui, et cela après les menaces dont vous nous avez fait part, Henri Vernet.
C'est ça, c'est, sa tactique a marché, mais c'est vrai qu'en sortant de l'Élysée, vous avez raison, en effet, il était persuadé que ben non, finalement, ça marcherait pas. Il avait prévenu ses amis, il avait prévenu ses proches en disant ben non, voilà, il veut pas céder, et finalement, en effet, retournement de situation.
Henri Vernet, vous êtes rédacteur en chef adjoint du service politique du Parisien aujourd'hui en France. Votre dernier ouvrage, Big Machiavel, aux éditions Bûcher-Chastel. Dans la deuxième partie de cette émission, disponible en ligne, nous nous intéresserons à la défiance des citoyens vis-à-vis de la classe politique française. Nous évoquerons cette défiance grandissante avec plusieurs intervenants, avec notamment le politologue Roland Cayrol. Nous écouterons également la chef du groupe écologiste et social à l'Assemblée nationale, Cyrielle Chatelain. Et vous entendrez également l'économiste Christian Saint-Étienne sur les conséquences économiques de cette crise politique.
Coulisses politiques avec Henri Vernet.
Vous êtes bien à l'écoute de votre podcast Coulisses politiques avec Henri Vernet. Nous évoquerons la défiance grandissante d'une partie des citoyens vis-à-vis des dirigeants politiques. Tout d'abord, une question. Peut-elle, cette défiance, favoriser les extrêmes et notamment la gauche radicale? Une question posée au politologue Roland Cayrol.
Les filles peuvent jouer sur un électorat de centre-ville, de jeunes gens déçus, voulant que la gauche soit une vraie gauche, qu'on dise non et disons pardon, merde aux partis politiques existants. Donc LFI existe et LFI en même temps est trop détestée par ses excès, par ses outrances, par un programme inapplicable.
Et même si LFI surprend à l'approche de la présidentielle, c'est arrivé lors des deux dernières élections présidentielles, et on a vu l'ascension fulgurante de Jean-Luc Mélenchon, qui à chaque fois s'est vraiment approché du second tour. Un duel Le Pen-Mélenchon est trop tôt aujourd'hui pour être envisageable avant 2027, mais ce n'est bien entendu pas à écarter.
Non, ce n'est pas à écarter. La meilleure élection pour Mélenchon, c'est la présidentielle, parce que les gens rendent hommage à son talent de tribun. Ils disent que lui, au moins, il y va, il dit les choses clairement. Il a un électorat chez les jeunes, dans les banlieues, notamment issus de l'immigration, qui pensent qu'en effet, c'est Mélenchon qu'il nous faut, et donc LFI. Mais en même temps, il y a cette chute dans l'opinion qui est que le bruit et la fureur qu'ont voulu LFI ne plaît pas à un grand nombre d'électeurs socialistes modérés qui sont tout de même jusqu'à maintenant très importants à gauche et qui empêcheront LFI d'avoir une majorité, tout comme ils empêcheraient le RN d'en avoir une. Qu'on le veuille ou pas, les électeurs français, même déçus, même lassés par la politique, ils sont restés assez modérés. C'est tout de même l'arc républicain traditionnel qui reste majoritaire.
Le politologue Roland Cayrol, l'arc républicain traditionnel reste majoritaire, nous dit Roland Cayrol. Mais peut-il, selon vous, et à la vue de l'évolution de la défiance des électeurs, rester longtemps majoritaire, Henri Vernet?
C'est toute la question. C'est pour ça d'ailleurs que certains, dont LFI et le RN, poussent à la dissolution. Alors, pour être très exact d'ailleurs, LFI ne parle même plus de dissolution, mais carrément de démission du président. Ils veulent sauter en quelque sorte l'étape d'une nouvelle élection législative. C'est ce qui fait dire d'ailleurs que c'est le procès qui est souvent fait à Jean-Luc Mélenchon de jouer en quelque sorte le chaos, le désordre dans la rue, pour faire pression directement sur les politiques. C'est quand même un petit peu exagéré, puisque pour l'instant, Mélenchon et LFI ont toujours joué le jeu des urnes, et bon, rien n'indique qu'a priori, ils changeraient de tactique. Le problème, c'est qu'au sein de l'arc républicain, il y a des majorités possibles, mais que pour l'instant, elles restent introuvables. Par exemple, d'abord, c'est quoi l'arc républicain, et qui le décrète, qui en décide?
Mais l'ensemble des partis politiques affirment faire partie de l'arc républicain.
Oui, ça peut paraître assez logique d'ailleurs, parce que quand vous jouez le jeu des urnes, justement, bah oui, a priori, vous êtes républicain. Et d'ailleurs, le problème en réalité, c'est que l'arc républicain, bah, il est là, mais le tout est de trouver une majorité au sein de cet arc républicain. Et alors, jusqu'où va-t-il, où commence-t-il et où s'arrête-t-il? Attention, hein, on se souvient que la première ministre Elisabeth Borne, elle avait par exemple tenté, voulu en exclure LFI, les Insoumis. Et ça avait déclenché un beau tollé. Elle avait d'ailleurs été rappelée à l'ordre par celui qui lui succédera plus tard, qui était Gabriel Attal, qui avait dit mais non, à partir du moment de toute façon où un parti, il a beau être d'extrême droite ou d'extrême gauche, est élu à des représentants au sein de l'hémicycle, au sein du Parlement, que ce soit l'Assemblée nationale, le Sénat, et puis plus largement dans différentes institutions en France, bah, ce sont des partis de facto républicains.
Question, Henri Vernet, comment la scène des affaires et les marchés financiers perçoivent cette instabilité politique et en quoi cela alourdit les défis budgétaires ?
Bah, ce qui est clair, c'est que les gouvernants sont toujours quand même très attentifs aux réactions des marchés, hein, même si il y avait la formule célèbre, hein, la bourse rien à cirer de
Edith Cresson.
Edith Cresson, absolument. Et puis avant elle, le général de Gaulle qui disait que la politique ne se fait pas à la corbeille, du temps où la bourse c'était une corbeille place de l'Opéra. Mais il faut bien sûr en tenir compte. Aujourd'hui, ce sont les agences de notation qui bien souvent donne le ton, et on voit à quel point les ministres de l'économie, on se souvient par exemple d'un Bruno Le Maire qui était toujours très attentif à cela, les agences de notation, comment est-ce qu'elles allaient coter la France. C'est important parce qu'évidemment tout ça en découlera la facilité ou non d'emprunt pour un pays, et pour un pays aussi lourdement endetté que la France, c'est important. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui la France emprunte son argent plus cher que ne le fait par exemple l'Italie. Et ça, c'est assez mal vécu côté français. Les Italiens, en revanche, ne manquent pas de s'engosser. Mais c'est bien sûr un phénomène important. Je dirais que ce qui est plus important encore en réalité, c'est le regard et les décisions de l'Union européenne. Parce qu'on fait partie d'un club. On est membre du club. On est un membre important. Donc, ce qui se passe en France sur un plan politique, mais évidemment aussi sur un plan économique, bah, ça a un retentissement sur l'ensemble des économies de l'Union européenne, tout simplement du fait de notre poids relatif dans cet ensemble. Et le laxisme budgétaire français est très mal vécu par les partenaires européens. Ce qui fait d'ailleurs que la France est sous procédure de surveillance par l'Union européenne, qui lui demande quand même de redresser ses finances publiques, de réduire son déficit et de réduire sa dette.
Et nos responsables politiques ne doivent pas être trop alarmistes, notamment vis-à-vis des investisseurs étrangers. Et c'est ce que souligne l'économiste Christian Saint-Étienne.
Si on crie trop au loup, les gens vont s'inquiéter, alors que la France n'est pas au bord de la faillite. Mais en contrepartie, il est impératif de montrer qu'on est capable de mettre en place un plan de réduction progressive du déficit. Le déficit aujourd'hui est à 5 points de PIB. Si on veut réenclencher une spirale positive qui permette de réduire progressivement le poids de la dette par rapport à la production, on a besoin de revenir autour de 2% du PIB en termes de déficit. Il faut donc qu'on arrive à éliminer 3 points de déficit. Ça doit venir, selon toutes les organisations internationales qui ont beaucoup analysé tous les plans d'ajustement depuis 40 ans dans le monde. Si on doit faire un ajustement de 3 points de PIB, il faudrait que ça se fasse par une réduction du poids de la dépense à hauteur de 2 points de PIB et une hausse de la fiscalité à hauteur d'un point de PIB. Donc les deux tiers de l'effort doivent porter sur la réduction de la dépense. Alors la réduction de la dépense, on n'est pas en Grèce. Quand il y a eu le choc extrêmement violent en Grèce, les pensions de retraite ont baissé d'un quart, les salaires des fonctionnaires ont baissé de 10 à 15%, il y a eu des dizaines de milliers de fonctionnaires licenciés. On ne parle pas de ça en France, mais
On en est loin ou pas de ce scénario à la grecque?
Si on ne fait rien, on pourrait y arriver. Hein.
Si on ne fait rien, on pourrait arriver à un scénario à la grecque d'ici 18 mois, nous dit un peu plus loin dans cet entretien Christian Saint-Étienne. La comparaison de nos comptes publics avec la crise connue par la Grèce à partir de 2009 n'est pas pour le moment pertinente, mais elle n'est pas à l'exclure dans l'avenir en cas d'immobilisme, Henri Vernet.
Bah, c'est certain que la France, là maintenant, elle est au pied du mur. Un pays qui a plus de 3 000 milliards d'endettement, qui n'a pas a signé un budget en équilibre depuis 51 ans, depuis Giscard d'Estaing, c'est vrai que c'est un problème et que les Français commencent à en être conscients. Alors, et c'est d'ailleurs été le totem de François Bayrou, c'est ce qui n'a cessé de marteler pendant son passage à Matignon. Il faut lui reconnaître d'ailleurs que chez lui, c'était quand même un thème important hein, depuis ses premières candidatures à président de la République au début des années 2000. C'est vraiment l'homme qui a voulu en finir avec ce défi faux bien français, avec un argument assez juste, hein, de dire que bah, endetter comme ça le pays, c'est grever, c'est mettre un boulet au pied des futures générations, des jeunes générations.
Alors une question, nous l'avons posée à la présidente du groupe écologiste et social à l'Assemblée nationale, Cyrielle Chatelain. Comment combiner les efforts pour réduire cette dette avec, en parallèle, une amélioration du pouvoir d'achat des Français les plus modestes, cela avec cette crise politique, cette crise sociale qui pourrait advenir. Cyrielle Chatelain.
Eh bien, la manière, c'est de remettre de l'argent dans les caisses de l'État. L'une des raisons de l'augmentation des déficits, c'est que Emmanuel Macron a décidé des baisses d'impôts non financées. Donc les recettes ont fortement diminué. Donc pour retrouver des marges de manœuvre, on a besoin, par exemple via la taxe Zucman, d'aller chercher l'argent auprès des ultra-riches, c'est-à-dire plus de 100 millions d'euros de patrimoine, pour les remettre eh bien, dans les caisses de l'État et permettre une redistribution de ces richesses.
Cyrielle Chatelain qui rappelle que la taxe Zucman prévoit d'imposer la fortune des Français qui possèdent un patrimoine d'au moins 100 millions d'euros, taxer les ultra-riches comme le souhaite Cyrielle Chatelain et l'ensemble de la gauche. Et serait-ce approuvé par l'opinion, vous qui êtes aussi un spécialiste de l'opinion en France?
On le sait, ça marche toujours. Hein, quand vous dites en France, taxons les riches, haro sur les riches, ah oui, ça marche parce que quelque part, vous êtes toujours le riche de quelqu'un et donc ça veut dire que ce sera pas vous qui serez taxé, mais surtout qu'on fera porter l'effort sur les plus nantis. Vous savez, il y a cette démonstration qui tourne toujours, c'est-à-dire que vous êtes milliardaire, le milliardaire, l'entrepreneur milliardaire paye moins d'impôts que sa secrétaire. Alors évidemment, on joue sur le poids relatif de l'impôt, hein, bien évidemment. Mais c'est quelque chose qui revient en boucle, notamment donc depuis la présentation du plan Bayrou en juillet 2015. Il faut bien noter d'ailleurs que lui, dans son discours hein, pour le vote de confiance, il a voulu démonter justement cette idée en dénonçant. Il regardait d'ailleurs dans les yeux François Ruffin, l'ex-insoumis, qui en disant que vraiment la France ont planté des aiguilles dans une poupée vaudou qui serait en l'occurrence ici Bernard Arnault comme les symboles des ultra-riches qu'il faut absolument taxer, ponctionner et on le sait, François Bayrou était hostile à cette idée. Alors, oui, l'opinion, il serait favorable. En réalité, ce qu'il y a, c'est que l'opinion, ce qu'elle demande, les Français, ce qu'ils veulent, c'est de la justice sociale, de la justice fiscale. C'est-à-dire que s'il y a un effort à faire, tout le monde y participe. C'est-à-dire que notamment, s'il y a des hausses d'impôts, eh ben, qu'elles soient d'abord pour les plus fortunés. Le problème pour le futur gouvernement, c'est que de toute façon, c'est Emmanuel Macron qui à la fin, donnera son imprimature ou pas sur la feuille de route fiscale qui sera choisie et que pour l'instant, il n'est pas favorable à revenir sur les baisses d'impôts qui ont été sa marque de fabrique depuis son arrivée en 2017. Donc tout se jouera là. Bon, on peut penser qu'a priori, qu'il y aura sûrement un geste fait sur les patrimoines les plus importants. Alors sans doute pas la taxe Zucman, parce que ça, la droite n'en veut pas.
Il y a la question de l'héritage, hein, qui est très important, dont les Français ne veulent pas de changement pour le moment sur ce sujet. Une question est pointée par la droite, la question de l'immigration. Les partis hein, situés à l'extrême droite de l'échiquier politique estiment que des milliards d'euros d'économies pourraient être réalisés en réduisant le coût de l'immigration. Est-ce que l'on connaît tout simplement le coût de l'immigration légale en France, mais aussi les recettes liées à cette immigration. Le problème, c'est que ce débat sur l'immigration suscite, selon ses contributeurs, des prises de position, mais aussi des conclusions analytiques diamétralement opposées et contradictoires.
En réalité, tout l'enjeu, ce serait de dépassionner ce débat. C'est vrai que là, dans les discussions qu'avait pu avoir François Bayrou avec les uns et les autres pour essayer de passer son budget, le RN de Marine Le Pen exigeait très fortement des mesures extrêmement sévères sur ce domaine-là en matière d'immigration, notamment la suppression de l'AME, mais ça d'ailleurs, LR le demande également, mais vraiment de couper tous les flux, enfin des solutions qui ne se décrètent pas comme ça sur un coin de table.
D'où vient cette fatigue démocratique aujourd'hui en France, Henri Vernet ?
Là, c'est quand même une question vraiment pour un sociologue, mais elle vient de loin, nous on la constate en tout cas.
Vous êtes un grand spécialiste de l'opinion quand même.
Alors, la désaffection, mais elle vient de beaucoup de phénomènes. D'abord, l'impuissance qui est constatée, c'est-à-dire que, vous savez, selon la formule un peu connue, on a tout essayé, bah oui, ils ont tout essayé, les Français, il y a eu des cohabitations, il y a eu l'alternance, il y a eu la domination d'un parti qui n'était ni de droite ni de gauche, enfin bref, les différentes formules. Or, est-ce que sur leurs problèmes quotidiens, sur les grandes questions fondamentales du pays, les choses ont avancé? Ils constatent que non, que donc la fatigue, elle vient aussi de ça. Elle vient donc d'un défaut qui est constaté sur les grands services publics. C'est vrai que l'éducation française, elle est vraiment battue en brèche. Hein. C'était un domaine d'excellence pendant longtemps, et là maintenant, désormais, on voit dans les classements PISA internationaux que la France est souvent en queue de peloton. Les services publics de manière générale, eh ben, ils manquent, ils sont plus là, c'est-à-dire que le nombre de postes, de services qui ferment dans des zones rurales, mais également dans des quartiers sensibles, sont foison. Donc tout ça, il y a ce sentiment que l'État se désengage, que l'État n'a plus les moyens. Il y a évidemment la sécurité, les questions d'insécurité, qu'elles soient réelles ou ressenties, comme on dit. C'est quelque chose qui joue énormément sur le moral des Français, sur la confiance qu'ils peuvent avoir. Et puis en numéro un, il y a le pouvoir d'achat.
Et pourtant, les citoyens s'intéressent à la politique. Comment on peut expliquer l'écart entre cet intérêt pour les grandes questions de société et le désintérêt croissant pour les acteurs politiques?
Il y a peut-être notamment cette idée que voilà, on vote pour des gens et finalement c'est pas eux qui gouvernent. C'est-à-dire que tous ceux par exemple qui ont voté pour le NFP, le Nouveau Front Populaire, pour ces différentes composantes, ils sont déçus parce que on leur a seriné qu'ils ont gagné et pourtant ce ne sont pas eux qui sont au pouvoir. Même chose pour le camp RN, les législatives qui ont été menées par Jordan Bardella, donné possible au Premier ministre en 2024, qui ont été battus, le fait est, dans les urnes par le Front Républicain, néanmoins qui se retrouvent comme le premier groupe en termes numériques à l'Assemblée nationale, les électeurs sont là, mais ils constatent eux aussi que ce n'est pas leur champion, leur parti qui gouverne.
Les référendums, comme la Constitution européenne.
Les référendums, exactement. On fait un référendum et puis qui rejette donc la Constitution européenne. Et puis finalement, cette Constitution, elle se retrouve quand même appliquée et consacrée par un accord direct entre les dirigeants des pays deux ans plus tard. Oui, il y a ces idées. Ont été mises en place, notamment depuis le premier mandat Macron, des conventions citoyennes sur le climat, par exemple. Et puis les citoyens qui sont réunis planchent, ils font un boulot très sérieux, ils s'investissent et puis ils sortent des conclusions mais qui ne sont pas respectées, qui ne sont pas réellement prises en compte par les pouvoirs publics. Donc oui, c'est ça qui fait la fatigue démocratique, c'est l'idée que vous avez beau vous impliquer, vous avez beau jouer le jeu, chercher et participer à la prise de solution, mais finalement les responsables politiques, ils ne tiennent pas compte de votre parole. général.
Henri Vernet, il y a aussi les cahiers de doléances des Gilets jaunes.
Mais c'est ça qui était sorti du grand débat. C'était une bonne idée, ce grand débat qui avait suivi de mon contestation, qui était vraiment, pour le coup, très puissant, très durable et qui avait impressionné par la quantité et la diversité de gens qu'il avait rassemblés. C'est-à-dire, c'était vraiment la France dans ce qu'elle avait de plus profond, hein, sur les ronds-points, les carrefours, dans toutes les zones du pays. Un trait dominant, quand même, de ce pays, de cette société, c'est la colère permanente des Français. Donc il y avait eu ces excès de colère qui s'étaient traduits par des scènes de violence inouïe qu'on avait pu voir aussi durant ce mouvement des Gilets jaunes. Alors, évidemment, il y avait aussi des noyautages de la part de groupes qui font de la violence un réflexe professionnel, comme les Black Blocs. Mais ce mouvement des Gilets jaunes qui avait vraiment exprimé un sentiment profond des citoyens de ce pays avait été suivi d'un grand débat, ce qui était plutôt une bonne initiative, et là aussi on avait été marqué par l'intérêt des Français pour venir s'exprimer ainsi. Ça fourmillait d'idées. Eh bien, tout ça, ça s'était traduit par des cahiers de doléances qui avaient été recueillis par les préfets, et puis, dont on s'est rendu compte que pendant des années, eh ben, ils ont sommeillé au fond de placards dans les sous-préfectures sans que personne s'y intéresse vraiment. Alors maintenant, en effet, il y a une récupération, une étude de tout ce qui a pu être dit. Mais voilà, mais il faut montrer aux gens que vous les associez à la gouvernance, à l'avancée du pays. Et c'est ça qui manque beaucoup, c'est ça sans doute qu'il faut développer.
Une démocratie participative, comme le prenait Ségolène Royal lors de sa campagne présidentielle, ce serait l'une des solutions aujourd'hui.
Ben, si c'est réellement appliqué, oui.
Merci, Henri Vernet.
Merci à vous.
Vous venez d'écouter Coulisses politiques avec Henri Vernet, émission disponible en podcast, notamment sur votre site internet radioorient.com. Henri Vernet, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint du service politique du Parisien aujourd'hui en France. Votre dernier ouvrage, Big Machiavel, aux éditions Buchet-Chastel. Un grand merci à vous. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
Coulisses politiques avec Henri Vernet.